de retour à l'hôtel de ville de Tours, toujours sur le plateau pour l'anniversaire de s'entraider. C'est Seb, je suis toujours avec Difaf, Axel, Maxime et de nouveaux invités qui se présenteront. Juste, je faisais une petite aparté parce que tout à l'heure on balance les pauses musicales et c'est vrai qu'on est sur un rythme un peu fou ici à l'hôtel de ville. Là on vient de s'écouter et c'est plutôt chouette parce qu'on recevait une association qui fait beaucoup pour les jeunes filles en Côte d'Ivoire. On parlait de féminisme et tout à l'heure tu demandais si c'était une question actuelle. Mmh. Bah, tu vois, on écoutait une chanson hommage en fait à Myriam Makeba, la chanteuse sud-africaine. Donc ça nous ramène à quand même il y a quelques années, voire même quelques décennies. Et c'était un titre de Ajaxto, c'est un producteur de musique électro, je crois qu'il est en Bretagne. Et voilà, il avait fait cette chanson, enfin il avait remixé ce titre en hommage à Myriam Makeba. Et en plus, c'est le jour où Joséphine Baker, elle entre aussi au Panthéon. Donc,
c'est incroyable.
Ouais, incroyable. C'est incroyable. Mais comme d'habitude, je te laisse la parole parce que toi aussi, je crois que tu as prévu une interview assez incroyable.
Mais oui. Alors nous sommes, alors j'ai le prénom de Mamadou en tête, par contre je suis désolé, c'est François.
C'est ça.
Pardon, voilà. Nous sommes avec donc Mamadou et François qui font partie donc du comité de jumelage de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui coopère notamment avec beaucoup de villes en Europe mais aussi avec la commune alors est-ce que je vais bien le prononcer, est-ce que tu veux le prononcer,
prononce-le
Alex.
C'est comme ça.
Nientila, pardon, au Mali. Est-ce que vous pouvez nous parler, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est un comité de jumelage déjà, tout simplement?
Alors un comité de jumelage, en fait, c'est responsable de relations avec soit des villes européennes, soit en matière de coopération décentralisée avec des communes d'Afrique ou d'autres continents. Au niveau du comité de jumelage de Saint-Jean-de-la-Ruelle, il y a 3 jumelages avec des villes européennes. Le premier avec une ville en Espagne qui est en Posta. Le deuxième avec Gomern qui est en Allemagne. Et le troisième avec Nipolomice qui est en Pologne. Alors, compte tenu du contexte, ces jumelages sont plutôt en sommeil actuellement. On espère accueillir une délégation de Gomern l'année prochaine. Par contre, l'activité de coopération décentralisée avec le Mali et avec Nianjila en particulier est toujours très active. Dans la mesure où Nianjila se trouve dans une zone du Mali qui est sûre actuellement. Nianjila se trouve au sud-est de Bamako, pas loin du Burkina Faso. Et c'est une région qui est pour l'instant épargnée, on espère pour longtemps, par les troubles qui sévissent actuellement au Mali. Et donc notre coopération peut se poursuivre, d'autant plus que sur place, à Bamako, on a un représentant qui est très actif et qui assure le relais entre nous à Saint-Jean-de-la-Ruelle et la commune de Nianjila.
Et alors, quels sont vos rôles alors à tous les deux dans cette coopération?
Alors nous travaillons au sein de la commission Mali, qui est plus spécifiquement chargée des relations et de la coopération avec Nianjila. Et donc, notre objectif, c'est de mener des projets en totale collaboration avec Nianjila, avec les autorités de Nianjila. En fait, ce qui est important, c'est la coopération, ça veut dire qu'on travaille avec Nianjila et on travaille dans le cadre qui nous est fixé par les objectifs de Nianjila. À Nianjila, il y a, comme dans toutes les communes du Mali, il y a un programme de développement social, économique et culturel qui est quinquennal. Et donc, suite aux échanges avec les autorités maliennes et en particulier le maire de Nianjila, on œuvre dans le cadre de ce PDSEC, de ce programme quinquennal de Nianjila.
Et alors, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de projets qui sont portés sur place à nous donner?
Alors, depuis une dizaine d'années, en fait, on se concentre sur la mise en place de périmètres maraîchers pour les associations de femmes des villages. Nianjila comporte 14 villages et on a déjà mis en place 3 périmètres maraîchers pour 3 villages et donc à destination des femmes. Donc, ces jardins maraîchers sont demandés à la fois par les femmes et par les autorités de Nianjila. Et ils ont pour but d'assurer un équilibre au niveau de l'alimentation, parce que l'alimentation de base au Mali, c'est le riz. Donc ça permet de diversifier l'alimentation. Ça permet aussi d'être moins dépendant des achats, en particulier donc des achats de riz. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les femmes peuvent vendre des surplus qu'elles produisent sur les marchés des autres villages. Donc ça leur fait un revenu. Et avec ce revenu, elles peuvent faire face à certaines dépenses, comme par exemple les dépenses de santé, ou bien les dépenses liées à la scolarité de leurs enfants. Et surtout, ça leur permet d'être plus autonomes. Et donc des femmes plus autonomes, c'est des femmes qui ont un rôle plus important après au sein de la société, au sein des villages de Nanjila.
Alors justement, on en parlait juste avant de l'importance de l'autonomisation des femmes en Afrique. Comment vous percevez cette autonomisation? Comment vous avez eu tout simplement même l'idée de commencer ce projet?
Alors ce projet, comme disait François tout à l'heure, ça vient d'un programme de la commune. Donc le programme de la commune qui était en direction des femmes, c'est-à-dire le développement des activités génératrices de revenus pour les femmes, on a répondu à ce projet-là. Donc, en plus de la création du périmètre maraîcher, on a engagé il n'y a pas longtemps une formation pour permettre aux femmes d'être plus aguerries dans le cadre du maraîchage. Donc ça, cette formation a eu lieu, donc on travaille plus dans ce domaine-là pour les permettre d'avoir des outils pour pouvoir pas se développer, mais au moins d'assurer ce qu'elles sont déjà en train de faire, sans brûler les étapes. On est actuellement, suite à un financement du ministère européen des Affaires étrangères, on vient de bénéficier d'une subvention qui va aussi nous permettre de pérenniser, enfin, d'assurer encore un suivi de formation et aussi d'apporter une aide sur le plan de l'éducation. Donc là, normalement, je dois aller le 3 décembre là, pour justement le lancement du projet localement. Mais le lancement a été fait déjà au niveau de la région le 19 octobre. Le séminaire de lancement a été fait. Donc ça concerne les pays du G5 Sahel. Donc on va travailler aussi encore pour donner beaucoup plus de moyens aux femmes pour pouvoir se développer, non seulement se nourrir, mais aussi d'avoir des revenus pour pouvoir assurer l'achat du matériel scolaire pour les enfants, aussi pour se soigner. Donc ça, c'est les axes de développement qu'on essaie d'entretenir.
On disait juste avant, avec d'autres intervenants, qu'il était des fois difficile, du moins pour la Côte d'Ivoire, ouais, pour les femmes d'elles-mêmes travailler et s'émanciper, l'autonomisation. Ouais, donc, ouais. Est-ce que ce problème se pose? J'ai l'impression qu'elles sont déjà installées dans le maraîchage, d'après ouais, ce que vous me dites. Ouais. Est-ce qu'il y a une première étape à les initier là-dedans, des négociations qui doivent être faites, ou est-ce qu'elles sont déjà en activité?
Oui, elles sont déjà en activité. Mmh. En fait, le problème des femmes en Afrique, souvent, est de travailler avec les hommes, ce qu'on appelle dans les champs, globalement, elles travaillent. Mais ce qu'il y a, c'est que hors saison, on appelle ça hors saison des pluies, les activités sont assez réduites. D'accord? Donc, elles ont les moyens qu'elles retirent, les moyens de subsistance, elles le font en faisant des petites activités. Donc, si les coopérations les permettent de se... Il n'y a pas de frein pour les femmes d'acquérir justement cette autonomie-là. Au contraire. D'ailleurs, on a un petit film là qui est en train de passer où une femme disait le fait d'avoir cette activité de maraîchage, ça m'a permis d'améliorer mon repas du quotidien à tel point que mon mari me remercie. Donc, en fait, au contraire, actuellement, de plus en plus d'hommes dans le milieu rural acceptent le travail des femmes. Donc, il y a eu une époque, effectivement, c'était compliqué, parce que c'était l'homme qui allait au champ, qui travaillait, donc qui ramenait les choses à la maison. La femme s'occupait du foyer. Mais maintenant, les choses sont en train d'évoluer. Il n'y a pas d'interdiction dans ce sens-là.
D'accord. Donc quand vous avez commencé l'association, les échanges, vous n'avez jamais eu finalement cette problématique qui s'est mise en place?
Non.
En fait, on peut s'appuyer sur des associations de femmes. C'est-à-dire qu'on a la chance, effectivement, que les femmes soient organisées et que leur activité est structurée autour d'associations. Et en fait, ce sont les associations qui ont un rôle important au niveau des cultures et au niveau aussi des demandes qu'elles peuvent susciter. Et les femmes sont très engagées au sein de cette association. Et comme tout à l'heure, on parlait de coopération, en fait, il y a une caisse commune des femmes auxquelles chacune d'entre elles contribue, ce qui leur permet aussi d'être autonomes dans leur activité maraîchère. Et alors, il y a quelque chose qu'on a fait, Mamadou l'a dit, récemment, là, c'est la formation donc en agroécologie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a fait la formation en deux temps. Dans un premier temps, il y a 9 femmes qui se sont rendues dans un centre de formation agréé. Elles ont reçu une formation Et ce sont elles-mêmes, ces 9 femmes, qui ont répercuté la formation à l'ensemble des femmes dans les jardins. Et donc, c'était une formation de formateurs. Et on s'est aperçu que c'était très efficace et que les femmes donc, qui recevaient, qui bénéficiaient de cette formation, étaient beaucoup plus impliquées que ça ne l'aurait été par, si la formation était assurée par un formateur de l'extérieur. Donc, tout ça, ça renforce la responsabilité des femmes, en fait. Et donc, Mamadou pourra confirmer, mais il y a vraiment un mouvement dans le sens de la responsabilité croissante des femmes dans les milieux ruraux au Mali, tout au moins sur notre exemple de Njila.
Et François vient de le souligner. En plus, ces femmes-là, leurs associations sont immatriculées. C'est-à-dire qu'elles sont connues par, elles sont reconnues par le maire de la commune et les instances du Mali. Elles sont immatriculées, elles ont un numéro d'immatriculation. Alors, le fait, justement, qu'il y a des... D'ailleurs, les associations de femmes, quand elles ont fait qui ont été formées, quand elles sont rentrées au village et qu'elles ont mis en expérimentation pour les autres femmes des autres villages, les hommes sont venus participer à ce passage d'expérience. Donc ça prouve qu'il y a un mouvement vers justement une autonomisation des femmes, qui est reconnue par les hommes aussi.
Et est-ce que ce mouvement n'a pas justement plein d'autres enjeux? Parce que vous parliez tout à l'heure du fait que le fait qu'elles aient un peu plus de revenus, ça permet d'avoir un meilleur accès à l'éducation, un meilleur accès à la santé. Est-ce que voilà, ça irrigue d'autres champs comme ça des besoins?
Oh, oui, les besoins de base, c'est l'éducation et la santé. Je pense que pour l'instant, nous, on ne s'est pas projeté, justement, François va en parler tout à l'heure, sur l'étape suivante au niveau de la production. On s'est on a travaillé beaucoup plus sur les permettre d'accéder à un périmètre maraîcher, d'accéder à la formation pour pérenniser ces périmètres maraîchers, d'abord. Et puis, cette formation-là, dans des modules de formation, on a intégré des modules de gestion. On va intégrer des modules de gestion donc pour qu'elles puissent maîtriser tous les éléments, justement, de production. Après, l'étape prochaine, je pense que François peut en dire.
Et mais justement, on peut peut-être aborder alors le futur de ce projet.
Oui, juste avant d'aborder ce point-là, ce qu'on a constaté, et Mamadou l'a constaté quand il s'est rendu à Njila, c'est qu'en fait... Les jardins, les périmètres maraîchers, c'était un lieu très important au niveau social. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les femmes restaient dans leur famille. C'était la famille, le noyau principal des relations. Et maintenant, elles échangent, elles se parlent beaucoup au sein des périmètres maraîchers. Et donc là, elles peuvent parler aussi de leurs projets, elles peuvent parler de leurs difficultés, des choses comme ça. Et après, ça nous remonte, nous, pour éventuellement orienter nos futurs projets. Alors l'idée, effectivement, dans le futur, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire que pour l'instant, la priorité numéro un, c'est de mettre en place des périmètres maraîchers dans les autres villages. Parce que, en fait, les femmes des autres villages envient énormément celles qui ont déjà un jardin, compte tenu du succès. Donc l'idée, c'est de mettre en place d'autres périmètres maraîchers. Mais à moyen terme, c'est aussi de transformer certains produits. Déjà, les conserver plus longtemps, parce que pour l'instant, c'est vraiment de la consommation assez rapide. Mais par exemple, les oignons, ça peut être conservé beaucoup plus longtemps s'il y a des méthodes de séchage, des choses comme ça. Donc l'idée, dans un futur assez proche malgré tout, c'est de mieux conserver les aliments et éventuellement en transformer un. Alors là, ça demande d'autres moyens. Pour l'instant, c'est au stade de l'étude de projet. Mais grâce effectivement aux actions qu'on a déjà menées, on est susceptible d'avoir plus facilement des financements maintenant. Ce qu'on voudrait dire aussi, c'est que toutes ces actions-là sont menées grâce à des financements publics, hein, que ce soit des financements de la ville de Saint-Jean-Lavel, de la région centre et du département du Loiret. Et là, dans le cadre du nouveau projet, aussi du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc c'est normal de les citer parce que sans eux, évidemment, sans financement, on ne pourrait pas faire grand-chose.
Et quels sont vos liens alors avec ce que nous sommes aux 20 ans de l'association Centraider? Quels sont vos liens avec Centraider?
Alors, bon, je peux. Les liens avec Centraider, bon, je suis administrateur à Centraider. Le lien avec Centraider, c'est avec Centraider nous a accompagnés justement sur le démarrage, enfin, sur le démarrage du projet qui vient d'être lancé. Donc on a signé une convention avec Centraider pour le pilotage administratif et financier de ce projet-là. Le lien, c'est tout ce qui est communication et le partage d'expériences. Je pense que Centraider aujourd'hui au niveau de la région centre, c'est une structure dont les associations tout entières de la région et d'ailleurs ont besoin parce que la mise en réseau des associations qui travaillent sur des territoires différents pour pouvoir partager les expériences. Une fois que c'est centralisé au niveau décentralisé, qui arrive à informer les adhérents de ce qui se passe, aujourd'hui nous apporte un élément très important. Et pas que nous, les autres associations, je pense.
Et justement, avec les deux intervenantes d'avant, donc Christina Go et Aminata Ouattara, qui a une association qui est en lien avec Centraider, ouais. Elle nous disait qu'un truc super important, c'était de connaître vraiment le terrain avant de se lancer dans un projet. Ouais. Parce que pour avoir tout simplement pas une vision forcément européo-centrée des choses et de dire on va imposer des choses, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez eu besoin d'aide ou vous connaissiez déjà la réalité du terrain?
La réalité, vas-y.
Maintenant, c'est plutôt nous, effectivement, qui apportons nos compétences aux autres, parce que Mamadou connaissait très bien le terrain, et notre coopération remonte à 1991 de façon officielle, mais auparavant, il y avait déjà des échanges scolaires. Donc, en fait, là, on s'aperçoit sur les stands qu'on est capable d'apporter des informations aux autres associations. Et alors, ce qui est intéressant dans le cadre du nouveau projet, c'est qu'en fait, il y a cinq associations qui participent à ce nouveau projet. Et cinq associations de départements différents. Et donc c'est un projet mutualisé et c'est, au cours de ce projet, on va pouvoir échanger encore davantage puisqu'on va être en relation pendant un an et demi pour mener à bien nos projets.
Eh bien écoutez, peut-être quelque chose à rajouter ?
Je pense que Centraider, aujourd'hui, est une base de données, une base de relationnelle très importante. Et le fait que les associations bénéficient justement des soutiens d'accompagnement, c'est quelque chose de très important. C'est pas parce que je suis administrateur de Centraider, mais je le dis. Je pense que c'est factuel.
Mais voilà. Toutes les associations qui sont passées pour l'instant nous disent la même chose. Donc, ne trahissez pas un secret, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être passé au micro de Radio Campus Tours. Ouais. Et eh bien, je souhaite que ce projet continue alors avec toutes les idées de François et de Mamadou.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
On va continuer cette émission, mais avant, on va marquer une courte pause musicale. Seb, est-ce que peut-être... Ah non, il n'y a pas de micro.
Ouais, une courte pause, parce que je crois que notre prochain invité, il est déjà dans les starting blocks.
Ah, très courte pause, alors.
Il est passé par l'étape désinfection, Covid, etc. Donc, je pense qu'on va même pas faire de pause, en fait. On fait pas de pause, ouais.
Bien, je vais meubler, alors.
Donc, c'est le grand moment du... C'est le grand meublement, alors... voilà.